yourself.
Au sommaire du radioblog de cette semaine, vous n'allez pas le croire, mais on va reparler de la disque. Jean-François Lisée, lui, il veut s'attaquer à Netflix, puis... Ah bon, la routine, quoi. On parlera également du grand gaspillage de l'argent public, que ça soit au fédéral ou au municipal, à Montréal. Ah, et puis, faut qu'on se parle. Eh bien justement, on va s'en parler. Mon nom est Jean-Philippe Rousseau, bienvenue à ce 14e numéro du Radioblog de Québec Presse. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. Pour les plus attentifs d'entre vous, et je sais qu'il y en a, vous avez pu observer qu'il y a 24 heures de retard dans la publication du radioblog de Québec Presse. Je sais, c'est scandaleux. Je vous l'avais expliqué, je pense, au dernier numéro du radioblog. Oui, c'était il y a 15 jours, mais peu importe. J'adore cette saison, cette première partie de l'automne pour plein de raisons. Je vous ai parlé des températures qui étaient, à mon goût personnel, plus favorables. Mais aussi parce que va commencer la saison de hockey. On est dans les matchs préparatoires, on a terminé la présentation de la Coupe du Monde qui était, ma foi, un peu so-so. Tu sais, il y a des matchs très intéressants, mais disons que la finale... Personnellement, je suis resté un peu sur ma faim. Tu sais, c'est pas comme une finale Canada-Russie ou Canada-États-Unis. Mais bon, bref, la vraie saison de hockey va recommencer. Et avec elle, c'est aussi la saison des poules de hockey. Puis certainement, certains d'entre vous participent à des poules. Et puis c'était d'ailleurs dimanche le repêchage d'un des poules auxquelles je participe. Et y avait deux solutions, soit je finissais très tard l'enregistrement du podcast dimanche, ou soit je préférais décaler ça de 24 heures pour rendre dans le fond quelque chose, le podcast un peu plus intéressant, moins endormant que le dimanche soir très tard. Vous allez d'ailleurs peut-être entendre la raison pour laquelle j'aime enregistrer le podcast du radioblog la fin de semaine et particulièrement le dimanche. Pour plusieurs raisons, et une des raisons, c'est une raison tout à fait pratique. Il y a beaucoup moins de trafic, de circulation le dimanche. Donc il se pourrait que vous entendiez un peu plus la circulation, peut-être un passage d'ambulance ou de police, c'est possible. Je m'en excuse par avance. Ceci étant dit, plongeons maintenant vers le premier sujet de ce 14e numéro du Radioblog de Québec Presse. Je vais être honnête avec vous, je ne comptais pas reparler de la disque. Et en regardant mes affaires, en lisant ce qui a pu s'écrire à droite et à gauche suite aux déclarations des responsables de la disque il y a maintenant un peu plus d'une semaine, je me suis dit que ça aurait été dommage de passer à côté de certains commentaires qui sont vraiment bons. Et qui, tu sais, on aurait manqué quelque chose. Je serais passé vraiment à côté de quelque chose. Je vais parler particulièrement d'un article publié dans le. En fait, c'est une chronique ou plutôt un billet d'humeur, on va dire, publié dans le Huffington Post Québec, qui a été écrit par Jesse Fush. Je ne sais pas si je prononce bien. Fush. C'est un artiste et il travaille également pour Slam Disc, excusez-moi. Et j'ai lu sa chronique. Oh, c'est parfait. C'est parfait. Et puis, venant d'un artiste indépendant qui n'est pas membre de la Disc, je vais vous mettre d'ailleurs en lien le lien vers l'article, tellement c'est bon, parce que je vais en citer des passages, mais je pourrais le lire en entier. Il n'y a pas une virgule que je retirerais de ça. Et puis, ça vient vraiment de quelqu'un qui vit. De la musique, qui vit de la culture et qui est engagé là-dedans. Il commence par une citation de Solange Drouin, qui est vice-présidente aux affaires publiques et directrice générale de la DISC. Solange, elle dit, je cite, « L'argent existe, mais il ne retourne pas dans les poches des créateurs. » Et là, Jesse commente donc la déclaration de Solange Drouin. Solange Drouin gagne assurément plus d'argent en donnant une entrevue de 30 minutes à titre de directrice générale de la DISC qu'un artiste québécois qui génère 147 000 écoutes en streaming. Ouch ! Ça fesse. Mais il a raison. Il poursuit. La DISC représente les producteurs qui, volontairement, font la mise en marché de l'art. Les vrais créateurs, ce sont les bands qui pratiquent dans leur local et qui valent déjà quelque chose avant même que les producteurs s'en mêlent. On conditionne les artistes, je l'ai souvent exprimé publiquement, à croire qu'ils ont de la valeur seulement lorsque l'industrie chiffre leur réussite à coups de palmarès et de trophées. Et là, je trouve qu'il met le doigt sur le bobo, comme on dit. On oublie souvent que l'artiste, la valeur, c'est ce qu'il crée. C'est pas le support sur lequel il présente son art. Le disque, oui, il a une valeur, mais c'est pas une valeur créatrice. C'est pas ça, l'art. On a complètement coupé les liens entre le créateur, l'artiste et son public. À cause, et j'en avais parlé la semaine dernière, on rajoute de plus en plus, ou on a rajouté, c'est sûr que maintenant, avec tout ce qui se passe, ils ont dû un peu slacker, hein, vous trouvez pas ? On a rajouté des tas d'intermédiaires, des intermédiaires qui se servent. Au passage, c'est pas des intermédiaires gratuits, c'est pas des gens qui travaillent pour rien. On a rajouté des tas d'intermédiaires entre l'artiste et son public, ce qui fait qu'aujourd'hui, et Jesse Fush, je suis désolé si j'écorche son nom de famille, le dénonce d'ailleurs dans cet article, c'est que dans le fond, il y a tellement d'intermédiaires que même aujourd'hui, à l'heure actuelle, l'artiste n'y reçoit rien. Et le streaming n'est pas en cause là-dedans. Tout le monde se sert. Je continue l'article parce que je vous dis, il est vraiment très intéressant. Quand Solange Drouin parle des revenus insuffisants reliés aux services de streaming et des organisations qui tentent de changer les choses, il n'est pas question d'organisation d'artistes, mais bien de producteurs qui, eux, doivent impérativement vendre plus d'albums pour non seulement payer leurs dépenses de mise en marché, mais le loyer, l'électricité, les assurances, les cotisations et évidemment les salaires. Le débat public est orienté sur les acheteurs contre les artistes. Malaise. Les artistes, en majorité, ont un revenu lié à un emploi en marge de leur carrière musicale. Rares sont ceux qui reçoivent l'équivalent d'un salaire minimum par année, provenant exclusivement de leur musique. Et c'est ça. Quand on parle artiste, on parle forcément, en premier lieu, des plus grands artistes. Je sais pas, je vais citer des exemples au hasard, tu sais, des Marimé, des Céline Dion, on va parler des Charles Bois ou d'autres, tu sais. J'essaye de toucher toutes les générations, vous avez remarqué. Mais c'est pas. Ça reste une minorité, ces gens-là. Ils ont réussi, ils avaient du talent, ou ils ont du talent. C'est clair, ou en tout cas, ils ont réussi à toucher un certain public. Ils ont réussi. Mais la très grande majorité des artistes, eux autres, là, ils travaillent dans un supermarché, ou il travaille chez, je sais pas moi, dans une administration, ou dans un commerce, et ils ne peuvent pas vivre de leur musique. Puis ça, Spotify ou Apple Music n'y est pour rien, ça a toujours été le même. On essaye, puis Jesse l'explique très bien, on essaye de rendre le public coupable. Tu sais, on fait en sorte que on sent mal. Ah, mon Dieu, je suis abonné à Spotify. Ce qui est vrai, je suis abonné à Spotify. Je devrais me sentir mal. Non, c'est pas vrai. L'argent est mal distribué, il y a encore une fois trop d'intermédiaires, ça c'est clair. Mais je me sens pas mal d'utiliser Spotify, je paye pour un service. Les compagnies de disques, si elles sont présentes sur Spotify, c'est parce qu'ils l'ont accepté. Là, il parle d'un article qui justement dénonçait Spotify et puis le problème dans la distribution des revenus. Et Jesse Fush continue. L'article semble dire qu'il faut augmenter les revenus en streaming légaux pour que les artistes aient leur juste part. Si les revenus augmentent, tout le monde va ajuster son salaire avant que l'artiste reçoive les motadines de même peanut à la fin. Plus loin, il dit, dans une salle, membre des réseaux comme Rideau ou Rozek, la fille qui déchire les billets, le gars du vestiaire, la sécurité et le gars du ménage font souvent plus d'argent que les musiciens sur la scène. C'est-tu normal? C'est-tu normal? Quand on parle d'industrie, on parle aussi de ces gens-là. Gérants, bookers, sunman, éclairagistes. On parle aussi même du camion loué chez les garés, l'hôtel. Sont payés avant que le band, à 25$ le billet, puisse s'offrir une poutine à 3h du matin après le show avec ce qui reste. Pendant ce temps, dans une industrie en marge, un band punk, rock, do it yourself, arrive à faire des bars à 8$ à la porte et peut quand même réussir à se payer la même poutine que l'autre. Donc ce qui explique en clair, c'est que quand vous suivez le chemin normal, entre guillemets, d'un groupe, et quand vous devez payer tout le monde, il vous reste des peanuts, alors que votre billet coûte 25$, puis qu'un groupe qui va, par exemple, au Fouf, sur Sainte-Catherine, à Montréal, qui fait payer ça 8$ à l'entrée, bah, au final, va toucher le même salaire. Et aura peut-être même plus de plaisir. On parle pas de Spotify là-dedans. Là. On parle pas d'Apple Music. On parle juste, encore une fois, d'intermédiaires qui se graissent au passage. Encore une fois, je vous invite à lire son article. Mais il finit d'une façon excellente. C'est quoi la masse salariale des 20 employés de la disque et combien d'écoutes en streaming faut-il générer pour rembourser cette charge ? Bonne question. Maudite bonne question. Et là, on revient toujours à cette industrie qui a du mal à se réformer. C'est toujours la même chose. C'est quand même curieux que semaine après semaine, le sujet revienne, qu'il y a des gens qui prennent position. Puis, encore une fois, c'est un artiste dont on parle. Alors après, il y a la gang, hein, il y a la clique qui est reliée à la disque, tout le monde se serre les coudes. Et c'est sûr que si un artiste membre de la disque qui se met à parler contre la disque, attention, watch out, ça risque de faire mal. Donc ces artistes-là se taisent. En tout cas, ils ne disent rien en public qui pourrait froisser la grosse administration de la disque, qui ne leur sert pas à grand-chose, dans le fond. Alors, on revient toujours à la même chose. Post-Canada, on en a parlé, versus les courriels et les messageries privées comme Facebook. Les disquaires, contre iTunes, Spotify. On peut rajouter la disque. Les clubs vidéo versus Netflix, Hulu, Internet, Taxi, les contre Uber. Et puis, j'ai eu un commentaire très intéressant, pas plus tard qu'aujourd'hui, de Michel Auger, que je salue d'ailleurs s'il est à l'écoute, qui apporte... je vous dis, c'est un problème très vaste. On pourrait trouver encore d'autres sujets. Et puis d'autres industries également qui refusent de se réformer. Et d'autres vont se présenter. Bon, je vous passe le côté où il est d'accord avec ce que je peux dire sur la disque. Lui, il amène un très bon commentaire. Je vais vous le lire. C'est bizarre, mais je sens l'odeur de déjà senti ou vu. Ça me fait penser au taxi. En effet, les journaux traditionnels n'ont pas vu venir le train ou ont refusé de le voir en temps. Les conséquences est qu'ils sont en train de se faire écraser par leur manque de vision. La presse ne se plaint pas, elle. Elle a investi plus de 40 millions de dollars dans la presse plus et s'est retirée de son format papier durant la semaine. De plus, la presse vend ou fournit sa technologie sous licence à Paris Match et d'autres. Bravo aux dirigeants de la presse. A-t-on vu la presse aller quêter l'aide de l'État québécois, à même les taxes des contribuables ? S'adapter ou périr, telle est la règle, le consommateur est roi. Encore une fois, l'autruche s'est enfouie la tête dans le sable et se plaint maintenant de se faire attaquer par les mauvais amerlocs. C'est triste. En ce qui me concerne, je ne lis plus ni les journaux papier ni les magazines depuis moultes années. Grand bien me fasse. Les coureurs de subventions allaient donc voir le leader mondial de l'information sur plateforme numérique, la presse, et obtenir une licence. Cela me fera épargner des millions de dollars à l'État québécois et à ses contribuables. Oui, il n'y a pas grand-chose que je pourrais enlever de ce commentaire de Michel Grenier. Merci encore. C'est vrai, il y a aussi les médias. Et ça me fait penser... au devoir qui crie à l'aide, pas à l'aide d'investisseurs privés, pas à l'aide pour trouver une façon, une nouvelle idée innovante pour sortir du marasme. Non, il crie à l'aide de l'État. Donnez-moi de l'argent pour ma survie. Ce qui est encore plus drôle, risible même. C'est un des journalistes du Devoir, j'ai oublié son nom, mais c'est pas grave. Il disait, pour plus d'indépendance, il faut que l'État québécois finance le Devoir. Tu sais, son argumentaire, si on peut dire, c'était qu'il faut une presse, des médias imprimés pluralistes, donc de différentes opinions. Et donc, il faut absolument qu'il y ait le plus possible de médias différents, dont le Devoir, pour contrebalancer ce qu'on peut retrouver, par exemple, dans la presse ou le Journal de Montréal. Et pour ça, il faut que ce média, le Devoir, puisse survivre. Et pour qu'il puisse survivre, il faut que l'État québécois le finance. Pour l'indépendance du média, encore une fois. Il y a quelque chose, et d'ailleurs je l'ai fait remarquer à ce journaliste à l'époque sur Twitter, il y a comme une incohérence. Comment être aussi stupide, excusez-moi, mais c'est vraiment ce que je pense, et croire qu'on peut garantir l'indépendance en réclamant une aide financière de l'État. Regardez ce qui se passe avec Radio-Canada. Il suffit qu'un candidat à l'élection fédérale promette de l'argent pour Radio-Canada pour que la moitié, je suis complètement dans le champ, pour que la quasi-totalité de la salle de nouvelles de Radio-Canada soutienne Justin Trudeau. C'est ça qui s'est passé aux dernières élections fédérales. Ça a été, à un moment donné, ça a été Thomas Mulcair, parce qu'il était en avant de Trudeau dans les sondages, mais une fois que Trudeau l'a dépassé, Trudeau devenait fantastique. imaginez qu'on finance, avec des aides de l'État, un quotidien comme Le Devoir. Puis qu'après, mettons que c'est le gouvernement libéral qui décide de donner quelques dizaines de millions au Devoir pour l'aider financièrement. Et qu'ensuite, un des journalistes du Devoir mette la main sur fasse une enquête sur le Parti libéral qui, par exemple, mette l'accent sur des malversations financières, qu'importe, quelque chose qu'il y a eu. Vous pouvez le voir, absolument pas crédible. Ça pourrait jamais arriver. Je ne mets pas en cause là l'intégrité du journaliste. Le journaliste qui va faire l'enquête veut publier son papier. Il a passé du temps, il a passé des semaines, parfois même des mois à faire son enquête, à aller chercher les témoignages, les faits, les preuves. Et à un moment donné, il y a le rédacteur en chef qui regarde ça et dit « Ouais, ouais, c'est une bombe là, ce que t'as entre les mains. » Là, il va en parler à ses chefs. Tu sais, quand il y a quelque chose comme ça qui sort de l'ordinaire, qui va peut-être faire travailler un gros cabinet d'avocats montréalais parce qu'il va falloir backer l'équipe de journalistes, par exemple, c'est sûr qu'il faut en parler au patron. Et là, le patron, il dit ouais, c'est sûr, là, c'est intéressant, c'est une belle enquête, c'est effectivement une bombe, mais c'est parce qu'on ne veut pas se faire couper nos subventions, là. T'sais, c'est un peu comme, on critique beaucoup, en tout cas là, une certaine gauche critique le fait que certains journaux appartiennent à des grands groupes. Et puis, il n'y a pas juste des bonnes choses là-dedans. Les monopoles médiatiques sont aussi dangereux que les monopoles étatiques, en tout cas à mon sens. Puis on dit, il suffit que, par exemple, un annonceur retire sa publicité de par exemple la presse pour que ça fasse pression sur la rédaction et que ça puisse peut-être empêcher la publication d'un papier contre cette entreprise. Oui, mais ça marche aussi avec l'État, là. Tu sais, un chef de cabinet qui passe un téléphone au chef de la rédaction dit « Mais là, j'ai entendu dire que tu comptais publier quelque chose contre le parti libéral, par exemple. C'est parce que, tu sais, l'année prochaine, il se pourrait que ta subvention, ben, tu fasses une croix dessus. » Et des fois, il y a des choix qui sont à faire. C'est-à-dire que soit on veut vraiment être indépendant, comme le dit ce journaliste du Devoir, et puis on dit « Oh, fuck it ». C'est pas grave, on fera une croix sur la subvention, mais je vais devoir me faire des mises à pied dans la rédaction, je vais devoir licencier certaines personnes, mais c'est le prix à payer de l'indépendance. Et certaines rédactions vont le faire. Je dis pas qu'ils sont tous, potentiellement corruptibles. C'est pas ça que je dis. C'est que parfois, le prix à payer de l'indépendance est pas mal cher. Alors, l'autre choix, et c'est le choix qu'a fait la presse, c'est d'évoluer, c'est de changer de plateforme. Et c'est sûr, et puis on pourrait faire une émission entière là-dessus, c'est sûr que toucher le papier, se beurrer les doigts d'encre, il y avait un côté, j'aimais ça, toucher du papier, et puis c'est vrai que c'est parfois, ça a été difficile, en tout cas au début, de changer mes habitudes. Mais en même temps, on est dans l'ère des tablettes. Tout le monde n'a pas une tablette. Et c'est vrai que c'est un pari risqué pour la presse, avec la presse plus. Mais au moins, ils ont essayé. Ils ont eu un choix. Tu sais, ça prend pas la tête à Papineau pour voir ce qui se passe dans le monde médiatique. Des grandes entreprises de presse sont en difficulté, y compris aux États-Unis, là. Le New York Times, il y a quelque temps, était dans une situation pas mal problématique. Ils se sont fait racheter. Washington Post également. Il y a des journaux qui, vous alliez l'acheter, surtout, je vous dis encore une fois, aux États-Unis, ça vous prenait quasiment un panier d'épicerie pour le transporter tellement il était épais. Aujourd'hui, ça a pas mal aminci. il y a soit le vous avez le choix soit d'évoluer, soit de prendre le risque de périr, comme le dit d'ailleurs Michel Auger. La presse a choisi d'innover. Peut-être que ça ne marchera pas. Peut-être qu'il y aura un nouveau support l'année prochaine, mettons, qui va complètement tuer la presse plus. Mais au moins, ils auront essayé. Ils ne sont pas comme Le Devoir, par exemple, à quémander l'aide des contribuables, de nous autres. Ce n'est pas l'aide de l'État. L'argent ne pousse pas dans les arbres. Puis, c'est toujours à coups de millions. Tout ça pour un lectorat de la presse, du Devoir, qui est en continuelle baisse. Plutôt que de s'interroger, OK, il y a de moins en moins de personnes qui achètent Le Devoir. Qu'est-ce qu'on peut faire pour augmenter le lectorat du Devoir? C'est ça la véritable question qu'un dirigeant d'entreprise doit se poser. Qu'est-ce qu'on doit faire pour s'améliorer? Être moins gauche, bon, ça c'est une autre affaire, c'est un choix éditorial, ils ont le droit de choisir leur point de vue, leur opinion. Essayer d'aller vers le numérique, c'est sûr que ça demande un investissement. Puis je vais peut-être vous surprendre. Quand il s'agit d'innovation, je ne suis pas opposé forcément à une aide de l'État. Attention! Je ne parle pas de subvention ici, c'est bien important. Je parle de prêt. Quand une industrie, comme par exemple les quotidiens, décide d'innover drastiquement pour essayer de s'en sortir, que l'État prête à taux réduit une certaine somme pour justement faire le virage technologique, je n'ai pas trop de problèmes. Ça peut se débattre. C'est normal, vous pourriez ne pas être d'accord avec ça. En tout cas, c'est clair, je suis contre une subvention, c'est-à-dire payer des millions, puis des millions qui s'évaporent. Il n'y a pas d'engagement là-dedans dans des subventions. C'est-à-dire qu'un prêt, ben, vous êtes quand même tenu de le rembourser, quelque part. Vous êtes tenu par une certaine éthique, mais aussi parce que si ça ne marche pas, si ça ferme, ben, les créanciers peuvent se servir lorsque vous allez fermer. Ne serait-ce que, je ne sais pas moi, vendre les biens immobiliers, peut-être que les créanciers n'arrivent pas à récupérer leur somme, mais au moins ils vont récupérer une certaine partie, une subvention. Il y a des subventions qu'on voit et puis qui sont dépensées et puis à pure perte. Je vous dis, le sujet est assez immense. On pourrait aussi parler des livres. Ça aussi, c'est un autre secteur qui a une tendance vers la numérisation. C'est vrai aussi que toucher un livre, c'est le fun. J'aime ça. Mais en même temps, je vois commencer. C'est très pratique de s'acheter un livre sur iBooks, par exemple, qui est un peu le iTunes des livres. Le sujet est très vaste. Et il y a beaucoup de chances pour qu'on en parle dans un prochain numéro. Vous allez voir, le prochain sujet est... On peut le mettre en relation avec le précédent. Enfin, ça concerne la course à la chefferie au Parti québécois et surtout Jean-François Lisée. Jean-François Lisée, qu'elle vend en poupe, hein, en passant. Il est au coude à coude, a priori, avec Alexandre Cloutier. C'est lui qui ressort le plus, je pense, en ce moment, que ce soit dans les médias. Depuis l'affaire avec... comment qu'il s'appelle? Charkaoui? Adil Charkaoui, cherchez son prénom, pour une grande importance, mais bon. On dirait qu'il l'a assommé, Cloutier. Et là, il continue, il essaye d'aller chercher des votes chez sa concurrente, sa principale concurrente, Martine Ouellet. Donc, il va un peu dans tous les sens. Et puis, c'est ça, il est allé de déclarations un peu surprenantes. Jean-François Lisée, il va s'attaquer à Netflix et à Apple, figurez-vous. Oh, il n'a pas peur, Jean-François Lisée. Il est parti d'un constat assez simple et je le cite. Si nos produits culturels perdent du terrain, ce n'est pas parce qu'ils sont de moins bonne qualité ou parce que ce sont des produits, ils sont produits en moins grande quantité. C'est parce que l'affichage, qui est maintenant contrôlé par les géants de l'Internet, les désavantage. En clair, lui, ce qu'il dit, c'est que quand on se présente sur la première page d'iTunes, iTunes Music Store, la musique québécoise n'est pas suffisamment représentée. Alors, j'ai été là d'ailleurs en direct, pendant que je vous parle, j'ai été sur la première page d'iTunes, et puis force est de constater, oui, bah, il a raison. Les artistes francophones, bah, il faut descendre un peu, mais ils sont quand même là. Il y a les grands succès canadiens, moi je sais que ça n'intéresse pas en tout Jean-François Lisée. Il y a Shania Twain, Bryan Adams, Neil Young, Céline Dion, Leonard Cohen, Diana Krall. Ouais, bon, c'est quand même des gros canons de la musique canadienne, si on peut dire. Je continue, je descends un peu encore. Nouveauté canadienne en vogue. Musique francophone. Et c'est vrai que c'est l'avant-dernière ligne. Mais là, musique francophone, c'est pas juste du québécois. Bon, il y a François Lachance, il y a Marie-Mé Bouchard, l'incontournable. Il y a les Impindices. Mais il y a aussi Hélène Ségara, qui est, je pense, plutôt française. Ah, Linda Lemay. François Morel, il est français. Je continue. Ima, une Québécoise. Il y en a que je ne cite pas parce que je ne sais pas trop d'où ils viennent. Bruno Pelletier, évidemment, il est d'ici. Plume La Traverse, le dernier plume qu'il faut absolument que j'écoute. Daniel Lavoie, oui, ça sent pas mal la boulamite. Cœur de pirate, bon, ça fait partie des incontournables. Tiens, encore Céline Dion. Elle est présente deux fois. Danny Bédard, mon Dieu, il est encore sorti de quoi, lui. Ok. Bon, le constat est clair. La musique québécoise francophone est présente sur iTunes, mais, oui, n'apparaît pas. Tout de suite, ça saute pas à la face. Donc, qu'est-ce que compte faire Jean-François Lisée? Lui, il souhaite appliquer le même ratio qui est exigé par la CRTC aux stations de radio, soit 65% de musique en français. C'est-à-dire que si vous arrivez sur la première page de Spotify ou la première page d'iTunes, ça prend 65% de contenu francophone. Et lui, il cite, comme exemple, le ratio de 65% pour les radios musicales. Je l'écoutais, il était en entrevue à l'émission de Morel Live, à Radio X Québec, pas plus tard que ce matin, lundi. Et lui, il disait, les quotas de 65%, ben, ça fait que les radios musicales restent rentables. Ouh, grosse erreur. Je sais pas d'où Jean-François Lisée sort ça, mais il a qu'à juste à observer les radios musicales, les unes après les autres, soit elles se spécialisent, ultra spécialisent, soit elles deviennent des talk radios, des radios parlées. C'est surtout évident à Québec, mais un peu à Montréal aussi. Mais à Québec, Énergie est passée au talk radio de plus en plus. Vous avez le FM 93, mais ça fait quand même un moment. Choix Radio X, comme je l'ai dit. J'en oublie. Il y a Boulevard aussi, il me semble, qui font pas mal de talk. À Montréal, il y a une radio jazz qui est devenue une radio parlée, pour devenir une radio sportive, donc une radio parlée qui parle de sport, le 91.9 Sport. Vous avez le 98.5, évidemment, qui est incontournable dans le paysage montréalais. Mais vous avez les radios musicales qui ont de la misère. Et puis, je voudrais rappeler à Jean-François Lisée, des fois qu'il écoute, on ne sait jamais, mais je voudrais rappeler à Jean-François Lisée que toute l'industrie de radiodiffusion du Québec, et pas juste les plus gros, pas juste Cogeco, pas juste Bell Media, mais y compris les indépendants, puis entre autres RNC Media, ont été en audience devant le CRTC pour dénoncer le 65% de quota francophone. Pour vous donner un autre exemple, en France, le quota est moins imposant. De mémoire, il me semble que c'est 40 ou 50%. Et ils trouvent ça déjà scandaleux, eux autres. Ça marche pas. Ça ne marche pas. S'ils veulent faire une radio 100% francophone, la disque, pour reparler d'eux encore une fois, ben, qu'ils fassent une radio francophone, qu'ils la financent, puis on va voir c'est quoi les codes d'écoute, les vrais codes d'écoute. Aujourd'hui, là, encore une fois, sans même parler de streaming, juste de... Je vais appeler ça un iPod, mais tous les téléphones le font, hein, vous avez tous de la musique sur vos téléphones, mais aujourd'hui, est-ce que vous allez forcément, à part si vous êtes pogné dans le trafic et que vous voulez vous détendre, mais si vous avez envie d'écouter de la musique, vous allez le premier réflexe, ça va être d'allumer la radio musicale pour avoir des publicités aux 5 minutes, des flash circulation ou des concours niaiseux. Sans compter, je voudrais dédicacer le dernier marimé à ma tante Pauline. Pauline étant un prénom tout à fait fictif, bien entendu. Ça ne marche pas. Non, monsieur Lisée, les radios musicales ne sont pas rentables ou ne sont plus aussi rentables qu'à une époque. Alors, toujours dans cette entrevue avec Dominique Moret un matin, je trouvais ça... encore une fois, c'est quelqu'un qui essaye d'être cool, de connaître un peu l'Internet et puis les nouvelles technologies, mais en fait, quand tu grattes un peu, il connaît rien. Lui, c'était Napster. Pour lui, Napster, ça a commencé légal. Pardon? Napster, c'était de la musique piratée. C'est comme ça que le MP3 s'est démocratisé. Le MP3 s'est démocratisé de façon illégale. C'est ensuite que Napster, après de nombreuses poursuites, après des fermetures, s'est transformé a transformé son modèle pour devenir légal et a fait payer sa musique. Ça n'a pas marché. Ça a été, je pense, racheté par une autre compagnie à un moment donné, mais on n'entend plus parler. Peut-être que ça existe encore, vous allez me dire, mais c'est iTunes qui a pris le gros morceau du gâteau quand ils sont arrivés avec leur investissement massu dans le domaine musical, à coup d'accord avec les majors, les grands groupes comme Sony, par exemple, pour ne citer qu'eux. Mais j'écoutais Jean-François Lisée, il rêve en couleur, là, en plus de ça. J'imagine très bien Spotify ou Apple Music qui a l'habitude. Apple Music a négocié très fermement, très très... Ils sont durs en affaires. Ils ont négocié pour avoir ce fameux 30%. Tu sais, à chaque fois que vous achetez une tune, excusez-moi, une pièce, il y a 30% qui vont dans les poches d'Apple. Et ça, les majors sont pas contents du deal, mais en fait, à cause du poids d'Apple et à cause du fait qu'iTunes est vraiment incontournable, eh bien, ils ont été forcés d'accepter ce deal. 30%. Ça revient un peu au premier sujet, je vous l'avais dit, hein? Les intermédiaires. Il n'y en a pas beaucoup, mais de ce qui reste, le 60%, est-ce que c'est 60% qui vont aux artistes? Et pourtant, un artiste reçoit plus d'argent grâce à iTunes qu'avec le streaming. C'est juste... C'est pas le modèle du streaming ou de la vente au morceau ou à l'album qui est à repenser. C'est les intermédiaires, encore une fois. Jean-François Lisée qui veut donc forcer Netflix à présenter 65% de contenu francophone. Pensez-y, là. Pensez Netflix, puis imaginez la première page de Netflix avec 65% de contenu francophone. Ça va être quoi? Les pays d'en haut? les Bleu Poudre. Tu sais, il y a de très bonnes productions, là, je dis pas le contraire. Tu sais, on a cité Blue Moon, qui est excellent. Puis Blue Moon a sa place sur une plateforme comme Netflix, comme elle a sa place aujourd'hui sur, comment ça s'appelle, le Club Illico de Vidéotron. Club Illico de Vidéotron, 10 piastres par mois. Ça existe. Si vous voulez du contenu francophone, si vous aimez le contenu francophone, vous avez accès au contenu francophone. Vous n'avez pas besoin de Netflix pour ça. C'est quoi le problème? Les gens ont le choix. Laissons-les choisir. Et encore une fois, vous allez... Au pire, là, Netflix décide de... OK, les IP du Québec auront 65% de contenu francophone en arrivant sur la plateforme. Qu'est-ce que vous pensez qui va se passer? Jean-François Lisée, là, il ignore peut-être qu'un VPN, parfois il y en a qui sont gratuits, il y en a d'autres qui sont qui coûtent, mettons, 5 piastres par mois, et qui permettent de débloquer le contenu. C'est-à-dire que, par exemple, quelqu'un qui veut avoir accès au Netflix, au catalogue Netflix américain, ben, il suffit qu'il aille chercher une adresse IP américaine et il aura accès à ce contenu. Je veux dire par là que si on contraint Netflix ou iTunes à avoir à respecter une réglementation purement québécoise, il y a une façon de le contourner. On est en 2016, c'est Internet. Vous savez, Netflix là, ou iTunes ou Apple, là, ils sont pas complètement fous. Là. C'est des gens qui veulent faire de l'argent. S'ils voient qu'il y a un véritable marché, qu'il y a une véritable demande pour de la musique francophone, ils vont le mettre à disposition. Puis s'ils voient que ça marche, qu'il y a des ventes, ils vont le mettre de plus en plus en avant sur leur plateforme. Mais Jean-François Lisée, d'ailleurs, il le dit très, très clairement. Hein. En plus d'agir sur le front réglementaire, le député propose d'amorcer des négociations avec Netflix. Je le répète, en plus d'agir sur le front réglementaire. Donc, il veut faire passer des lois. Netflix, là, s'il voit que c'est trop complexe d'être sur le marché québécois, ils vont juste tirer la plug. Là. Vous croyez qu'ils vont s'emmerder à investir dans leur structure pour que, dans le fond, il y ait plus de contenu québécois? Ils s'en foutent, là. C'est un marché de combien? On est 8 millions. Il y a combien d'abonnés à Netflix au Québec? Je sais, ils font pas la publicité des chiffres d'abonnement Netflix, donc j'ai pas la réponse, mais vous imaginez que quoi, il y a la moitié de la population du Québec qui est abonnée à Netflix? Non, ben non. Tout au plus, il y a quelques dizaines de milliers, je pense, à vue de nez. Peut-être que je suis complètement dans le champ, à vous de me le dire. Mais vous allez pas contraindre un géant comme Netflix ou comme Apple, alors que le CRTC n'a pas pu obtenir ce qu'ils voulaient quand ils ont demandé à Netflix de publier justement leurs chiffres. Le CRTC a dit « Ok, bon, ben j'insiste pas. Vous êtes trop gros pour nous. Hein. » Enfin, ils l'ont pas dit de même, c'est ça que ça voulait dire. Alors j'imagine Jean-François Lisée. Moi, je pense que c'est juste... ça fait partie de la stratégie électorale de Jean-François Lisée. Il veut mettre en avant la loi 101, une loi 101 adaptée aux médias numériques et puis à la musique, à l'art. Et puis, bon, il fait son petit coup de... je vous dis, je pense qu'il veut séduire l'électorat de Martine Ouellette. J'imagine que c'est ça. Puis que si jamais il vient au pouvoir, ben ça s'arrêtera là. Il n'y aura pas de loi anti-Netflix, là, comme... Tu sais, c'est un peu comme essayer d'interdire Uber. Il y a d'autres services qui vont arriver, puis d'autres façons de faire du covoiturage ou de... Comment qu'on dit? L'économie partagée, c'est ça? L'économie de partage. Il y aura d'autres façons. Vous inquiétez pas. On va pas retomber dans le débat, mais c'est ça qui est en train de se passer. L'Internet, on pensait que on exclut la personne qui parle. On pensait naïvement qu'Internet, ben, la révolution, elle avait eu lieu il y a 15 ans, 20 ans maintenant, bientôt, et que maintenant elle était passée. Mais non, c'est une révolution qui continue. C'est l'économie, l'industrie, les industries qui s'adaptent à une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon d'investir, et une nouvelle façon d'attirer des clients, une nouvelle façon donc de percer des marchés. C'est ça qui est en train de se passer. C'est juste de l'innovation. Soit on embarque, encore une fois, c'est toujours la même affaire, soit on embarque dans le train, soit on le laisse passer, puis on se réveillera trop tard, comme souvent. Ouais, parlons argent maintenant, parlons gaspillage d'argent public, parlons gaspillage d'argent des contribuables. C'est ça qu'il faut jamais oublier. C'est pas... je sais que parfois, je le fais aussi, cette erreur, c'est qu'on parle trop souvent de l'argent de l'État, mais il faut jamais oublier que cet argent sort de nos poches. Il y a un article du Globe and Mail de la semaine dernière concernant le gouvernement Trudeau. Et oui, on parle du fédéral pour l'instant, qui nous explique que le gouvernement de Trudeau va payer 200 000 dollars, 100 000 dollars par année en fait, un contrat de 2 ans, un expert britannique, expert en promesses électorales. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, de quoi qu'on parle ? Payer 200 000 dollars, un expert en promesses électorales, de quoi ça parle ? En fait, il s'agit... Excusez, pardon, c'est Sir Michael Barber. Sir Michael Barber, donc c'est un Britannique, là, ça surprendra personne, qui est spécialisé donc dans l'art de remplir les engagements. Vous ne saviez pas, comme moi, que ce genre de job existait? Ben oui, ça existait. En fait, il n'est pas à son coup d'essai. Il a été l'un des conseillers, dans le fond, de Tony Blair, l'ancien Premier ministre britannique. Dans le fond, sa job consiste à parler des promesses électorales. Et on le paye 100 000 piastres par année. Il a participé déjà aux 3 retraites du cabinet Trudeau cette année, donc à St. Andrews by the Sea, au Nouveau-Brunswick, Kananaskis en Alberta, ainsi qu'à Sudbury en Ontario. Depuis un an que Trudeau est au pouvoir, il y a déjà eu 3 retraites. C'est le cabinet de Justin Trudeau qui se réunit dans un hôtel qui n'est pas un hôtel cheap, hein, en général, ou une adresse de villégiature. Et ils réfléchissent ensemble sur la façon de gouverner, dans le fond. Donc, déjà en un an, ils ont eu besoin de faire 3 retraites, ce qui est assez incroyable. Ça aussi, c'est de l'argent dépensé pour rien. Et puis, Michael Barber a insisté, j'imagine qu'il a parlé au cabinet Trudeau. On n'a pas beaucoup d'informations, en fait, relativement à ça. Le Globe and Mail a essayé d'avoir, compte tenu de la loi sur l'accès à l'information, a essayé d'avoir un maximum de documents, mais il y a certains documents qui n'ont pas été capables d'avoir, donc pour aller plus en profondeur là-dessus. Il n'y a pas eu d'appel d'offres d'ailleurs pour ce contrat, donc on l'a appelé, on le paye 100 000 piastres pour parler promesses électorales. Moi je trouve ça complètement incroyable. Le Journal de Montréal également a essayé d'avoir des commentaires du bureau du conseil privé. Pareil, pas de réponse, pas de façon de justifier ces dépenses. Ça, c'est à mettre en parallèle avec ce que je vous expliquais donc pas plus tard que la semaine dernière concernant toutes les dépenses du gouvernement Trudeau depuis son entrée en fonction. Hein, je vous rappelle les fameux 220 000 dollars pour déménager 2 employés du Premier ministre. La ministre de l'environnement, Catherine McKenna, qui dépense 17 000 dollars pour des photos sur Twitter. Pas moins de, je vais retrouver le montant, ça sera pas long, 127 000 dollars. 127 000 dollars pour faire travailler une équipe de 7 fonctionnaires pour les vidéos, les belles vidéos YouTube de Justin Trudeau. Sans compter toutes les dépenses du gouvernement qui frise les 8 milliards de dollars. Je vous rappelle, ça fait un an à peu près qu'ils sont élus, ces gens-là. Un an. 8 milliards de dollars pratiquement de dépensés déjà. Tu sais, peut-être que le contrat de 200 000 $, enfin, peut-être qu'un expert britannique, il va pas me faire croire qu'il n'y a pas de Canadiens qui sont capables de conseiller le gouvernement Trudeau sur ses promesses électorales, mais bon, qu'importe. Mettons que ça soit utile. Encore une fois, c'est toujours le symbole. Je sais qu'il y en a qui vont dire « Ah, c'est 200 000 piastres, 200 000 piastres, là, c'est sur un budget de milliards et de milliards de dollars, c'est une goutte d'eau. » Mais le problème, c'est qu'il pleut beaucoup, là. Il y a beaucoup de gouttes d'eau là, en ce moment qui font déborder le vase de la dette canadienne et c'est pas normal. Malheureusement, il n'y a pas qu'au fédéral qu'il y a des problèmes. Ben, d'ailleurs, je n'ai pas fini de parler du fédéral. J'allais passer complètement à côté d'une autre nouvelle qui est parue la semaine dernière. C'est un rapport, je pense, du vérificateur général qui lève le voile sur le comportement douteux de fonctionnaires. Donc, c'est paru, dans Le Devoir, la semaine dernière. Écoutez ça. Une fonctionnaire fédérale a perdu son emploi après avoir utilisé une carte de crédit professionnelle pour effectuer des achats personnels et laisser le soin au gouvernement de régler la facture de 24 000 $. Elle fait partie des cas soumis à la Direction des services publics et approvisionnement Canada qui offre un aperçu des pratiques douteuses de 4 fonctionnaires, dont 2 ayant fini par être congédiés, soit Julie et un homme connu sous le nom de Vincent. Julie et Vincent sont des noms fictifs, hein, d'ailleurs, en passant. Dans le cas de Julie, elle a effectué 127 achats personnels payé sur la carte de crédit professionnelle, donc la carte de crédit du gouvernement. 127 achats personnels. Vincent, l'autre fonctionnaire congédié, Vincent a pour sa part été remercié après que les caméras de surveillance... Celle-là est bonne, écoutez ça. Vincent a pour sa part été remercié après que les caméras de surveillance l'eurent filmé à plusieurs reprises en train de remplir le réservoir de son véhicule personnel avec l'essence payée par les contribuables et uniquement destinée aux tondeuses à gazon et camionnettes appartenant au gouvernement. Gars, là, il s'est fait pogner par les caméras de surveillance. Hein. La valeur totale de ces vols oscillerait entre 695 $ et 907 $ selon l'enquête. Écoutez ça. Interrogé à ce sujet, le fameux Vincent a affirmé que l'essence manquante s'était en fait évaporée en raison des trop longues périodes d'inactivité de l'équipement gouvernemental. Je sais pas où il a été chercher cette raison, là, mais oh my god, tu sais, t'as été pigé pour entre 700 et 900 piastres d'essence. Faut quand même y aller, là, même au prix de l'essence. C'est pas mal de plein, là, tout ça, l'air de rien. Puis le gars, là, quand son superviseur ou quand ses gestionnaires lui ont demandé des comptes, il a dit « Ben non, ça s'est évaporé. » Ben ouais, les tondeuses et les camionnettes là, restent souvent sur le stationnement à rien faire et puis l'essence finit par s'évaporer. C'est incroyable, hein? Incroyable excuse, mais c'est pas ça le pire à la limite. Le pire, ça en vient. Les documents, toujours dans Le Devoir, les documents montrent que les enquêteurs ont discuté avec des collègues pour savoir combien de temps en moyenne la machinerie restait inactive, puis ont demandé au groupe de recherche d'Environnement Canada sur les émissions toxiques de calculer combien d'essence était consommée pour chaque minute d'inactivité. On rêve. Que les gestionnaires de Vincent aient été voir les responsables de l'équipement pour dire hey, « tes véhicules là, qui sont là, ils restent-tu longtemps comme ça, inactifs ?» Puis s'arrêter là, c'est normal, c'est une question qu'on peut effectivement se poser. Mais non, ils ont été encore plus loin. Ils ont, dans le fond, payé un groupe de recherche d'Environnement Canada pour calculer combien d'essence était consommée pour chaque minute d'inactivité des véhicules. On a payé du monde pour faire une étude d'eux-mêmes. L'article finit par « Les calculs leur ont permis de conclure que l'inactivité des véhicules ou de petits équipements comme les tondeuses ne pouvaient pas expliquer l'essence manquante. No kidding. Sérieux, là? Ils auraient pu m'appeler, j'aurais pu donner à peu près la même réponse. C'est la logique. C'est le bon sens. Mais apparemment, il n'y en a pas trop du côté d'Ottawa, hein, du bon sens. Puis là, vous allez me dire encore une fois, 24 000 $, moins de 1000 piastres d'essence. Ah, qu'est-ce que c'est? Encore, il y a les symboles, puis il y a surtout l'accumulation. Tu sais, ça me fait un peu penser à Lise Thibault. Je sais, Lise Thibault, c'est pas au niveau fédéral, c'est plus... C'était la lieutenant-gouverneur. Tu sais, Lise Thibault qui achetait des sous-vêtements. Désolé pour l'image que ça suscite dans votre esprit en ce moment même. Qui était présente dans deux restaurants simultanément et qui payait la note pour des soupers évidemment très onéreux. Mais c'était la représentante de la reine, que voulez-vous. Tout ça fait... Tu sais, on dirait que la morale, l'éthique, à un certain niveau gouvernemental ou de fonctionnariat, ça ne veut pas dire grand-chose. Au contraire, s'il y a des gens qui doivent être irréprochables, outre les élus, outre le gouvernement, mais les fonctionnaires aussi. Excusez-moi, pardon, là, mais même si... ils ont le droit de dire « oui, on aimerait être plus payé », mais ils ont quand même une job le plus souvent à vie. Je ne parle pas des contracteurs, je parle des gens qui sont à temps plein, qui sont de vrais fonctionnaires en bonne et due forme. Ils ont une job à vie, ils ont un fonds de pension garanti. Que ça monte, ça baisse, ils vont être payés une somme prédéterminée à leur retraite. La sécurité de l'emploi, je vous l'ai dit. Quand même un salaire pas trop pire, des horaires de travail pas trop pires pour la grande majorité. Puis ils utilisent la carte de crédit des contribuables. Pas juste une carte de crédit professionnelle, c'est la carte de crédit des contribuables pour payer... des effets personnels. Et en plus de ça, je ne vous l'ai pas dit dans l'article, mais Julie, qui a payé 124 achats personnels, d'ailleurs, on ne sait pas le détail, hein, ce n'est pas dans le rapport. On pourrait avoir des surprises aussi. 127 achats personnels, puis au début, elle ne voulait pas rembourser, figurez-vous. À force d'être interrogée, elle a fini par dire « ok, enlever la somme de mes payes. » Elle finit par être congédiée. Dieu merci. L'autre qui vole de l'essence et qui nous dit bah, « c'est parce que ça s'évapore ». Ben oui, gros, ça s'évapore. Je pense que c'est surtout son intelligence qui s'est évaporée ces derniers temps. On s'en vient cette fois vraiment au niveau municipal. À Montréal, je vais vous parler de Bixi. Jasmin Guénette sur le site de l'Institut économique de Montréal, IEDM.org, qui a également publié sur le Journal de Montréal, sur les blogs du Journal de Montréal, un article très intéressant sur le Bixi. Très intéressant, et puis en plus j'ai appris certaines choses, et sans doute ça va être pareil pour vous autres. Je cite, « On a appris récemment que la ville de Montréal a perdu 19,3 millions de dollars, c'est pratiquement 20 millions de dollars, une paille, dans la faillite de la société de vélos en libre-service, SVLS, qui gérait Bixi. La ville vient de rayer cette somme de ses livres, puisqu'elle estime qu'elle ne pourra jamais récupérer une partie du prêt de 37 millions consentis en 2011. » Donc, sur les 37 millions consentis en 2011, il y a 19,3 millions qui sont comme perdus. Je continue l'article. Bref, Bixi a fait perdre plus de 19 millions aux contribuables montréalais. Lui, il nous dit, Jasmin Guénette, Bixi n'est pas un service public. Dans ce cas, est-ce vraiment à l'ensemble des contribuables de payer pour ça? Les déboires de Bixi ne datent pas d'hier. L'entreprise est en difficulté financière depuis ses débuts. En 2011, la ville avait déjà approuvé un plan de sauvetage de 108 millions de dollars pour le programme. 108 millions de dollars, je le répète, qui incluait le prêt mentionné plus haut, c'est-à-dire les 37 millions, et 71 millions en garantie de prêt pour aider à exporter et développer Bixi à l'étranger. En 2013, le vérificateur général de la ville émettait quant à lui des sérieux doutes sur la capacité de Bixi à continuer à opérer à Montréal. C'est le vérificateur général de la ville. C'est pas l'IEDM ou c'est pas la CAQ ou une autre affaire. C'est pas moi qui le dis. C'est le vérificateur de la ville. Pour continuer et pour dire que Bixi, c'est vraiment de la bullshit. Il y a une étude de l'université McGill en 2010 qui concluait que on avait grandement exagéré l'impact positif du Bixi sur l'environnement. Vous êtes en train de me dire, c'est des vélos, c'est normal, c'est sûr que c'est un impact positif sur l'environnement. Mais l'étude de l'université McGill est très claire à ce sujet. 86% des déplacements en Bixi avaient remplacé des déplacements à pied, en vélo personnel ou en transport en commun. Ça fait mal. C'est pas des gens qui ont décidé de ranger leur véhicule ou de ne pas prendre leur voiture, puis qui ont décidé d'aller prendre à Bixi. 86%, dans ma tête, là, ça, c'est 86%, c'est une écrasante majorité. Je ne sais pas pour vous. 86%, dans le fond, étaient déjà à pied, en vélo ou en transport en commun. Le gain environnemental frise donc les zéros. Mais on vend ça comme quelque chose de fabuleux. Mais si c'est si fabuleux, si ça peut être effectivement rentable, pourquoi c'est pas une entreprise privée qui s'en occupe? Je ne suis pas contre que quelqu'un, une entreprise, Vinci par exemple, vous savez, ceux qui font les stationnements intérieurs, qui gèrent pas mal de choses comme ça, et d'ailleurs je pense peut-être que je suis complètement à côté de la plaque là, mais il me semble qu'ils ont une part d'investissement également dans certains vélos partagés, mais qu'importe. Une genre de compagnie qui se disent « Ah, il y a de l'argent à se faire, là. On va investir dans Bixi. » S'ils ne le font pas, c'est peut-être parce que ce n'est pas rentable, parce que le gain, il n'est pas là. Et Denis Coderre de nous dire, il y a quelque temps, il y a peut-être un an ou deux, là, de nous dire « Oh, oui, c'est rentable, vous allez voir, la ville de Montréal va faire son argent avec ça. Eh, pardon, 19,3 millions de dollars qu'on a enlevé des livres. » 19 millions de dollars qui auraient pu servir aux infrastructures de Montréal, par exemple. J'ai entendu dire qu'il y en avait besoin, mais qui sont évaporés pour permettre à des gens qui étaient déjà à pied ou à vélo ou en transport en commun de pouvoir utiliser un Bixi. Jasmin Guénette continue son article. C'est là où vous allez voir où je veux en venir. Des initiatives comme Communauto, une entreprise privée rentable et utile pour décongestionner les rues, ou même Uber, en font probablement beaucoup plus pour l'environnement que Bixi. Communauto, Uber sont des entreprises privées. Pas de financement gouvernemental là-dedans. Il y a des gens qui, plutôt que d'acheter une voiture, utilisent Communauto. Ils ont le permis de conduire et puis ils réservent leur voiture, ils vont la chercher. Et puis ils l'utilisent comme bon leur semble. Et puis quand ils en ont plus besoin, bien, ils retournent au stationnement et puis la voiture est disponible pour quelqu'un d'autre. Et ça marche. Ça, c'est environnemental. Uber, c'est pareil. Mais c'est ça. Moi, je pense, Ben, je pense, je suis sûr. Il y a un lobby environnemental. Puis ça fait, encore une fois, ça fait vivre certaines personnes. Il y a des emplois en arrière de Bixi. Il y a toute une administration qu'il faut maintenir. Puis vous allez toujours trouver quelqu'un qui va sortir des graphiques et pour te dire à quel point c'est bien Bixi. Regardez, c'est vert. C'est vert. Une belle photo de quelqu'un sur un Bixi près du parc La Fontaine à Montréal. Et ça y est, c'est cané. Vous avez le gros codaire. Excusez-moi l'expression, mais il y a juste ça qui me vient en tête. Un gros codaire qui dit « Ah, fabuleux !» On va en parler aux médias. Montréal, une ville verte, vous avez vu? On augmente les pistes cyclables. Je ne suis pas forcément contre les pistes cyclables, soit dit en passant. Une piste cyclable, c'est pour tout le monde. C'est des. Tu sais. J'ai oublié, ça coûte des milliers de dollars un vélo Bixi. Tu sais, ils sont super. Ils sont lourds. Ils sont niveau solidité, c'est quasiment des tanks. Hein. Ils sont solides, ils sont robustes. Et ils sont faits pour cet usage qu'on veut en faire du Bixi, ça c'est clair. Mais pour le prix que ça coûte, là, pouvez-vous acheter plusieurs vélos normaux chez Canadian Tire? Moi, si quelqu'un veut un vélo, là, entre acheter un Bixi ou donner une petite subvention pour acheter un vélo, là, je ne suis pas pour les subventions, encore une fois, mais on perdrait peut-être moins d'argent. Va t'acheter un vélo. Ah, je sais, ils vont se le faire voler près du métro Mont-Royal. C'est vrai. Mais sérieusement, je préfère qu'on ait des transports collectifs plus modernes que d'investir de l'argent public dans une entreprise comme Bixi. Si, encore une fois, je le répète, une entreprise privée veut investir dans Bixi, you're welcome. Be my guest. Allez-y. Allez-y, faites comme chez vous. Là. Vous avez tous les emplacements de vélos Bixi actuels disponibles. Je suis même prêt à leur faire un prix de vente de Bixi. De toute façon, on va perdre l'argent encore là-dedans. Donc, faites un bon prix, vendez ça, et on n'en parle plus. La gestion sera dans les mains du privé. Et puis, si jamais ils décident d'enlever des Bixi parce que ça leur coûte trop cher, des stations de Bixi, par exemple, qu'ils en mettent un peu moins en ville, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas pour ça qu'il y aura plus de voitures dans les rues de Montréal. On le sait. Il y a 86% des déplacements en Bixi qui n'enlèvent pas de voitures dans les rues de Montréal. Ce sont déjà des gens qui sont à pied ou à vélo. Puis c'est tout. Soyons responsables. On parle de l'argent des contribuables, on parle de l'argent qui pourrait servir pour des infrastructures, pour des services. Mais on nous sert de la bullshit environnementaliste, qui est encore une fois de la bullshit, on en a la preuve, pour faire payer ça sur le dos des contribuables. Ça m'écœure. Ah, et déjà 1h08 d'émission. Et je déborde pas mal hein, par rapport à d'habitude. Il y avait des choses à dire. Dernier sujet, je vais faire ça un peu plus court. On va essayer. On va parler de faux qu'on se parle, justement. Faut qu'on se parle. Donc, cette idée de... Comment qualifier ça d'association, de club de réflexion, de... En tout cas, c'est Jean-Martin Housson, ancien chef et fondateur d'Option Nationale, qui après avoir passé ses journées donc, en Grande-Bretagne, est revenu au Québec, et puis qui s'associe avec Gabriel Nadeau-Dubois dans un projet qui s'appelle « Faut qu'on se parle », tout simplement. Faut qu'on se parle, mais en fait, si j'ai bien compris leur réflexion, puis leur façon d'agir. Ils veulent faire le tour du Québec et puis parler de différents sujets, de société, d'environnement, évidemment, d'éducation. Avec d'autres Québécois, et puis ils nous disent qu'ils veulent, qu'ils sont ouverts à la discussion, mais qu'ils sont souverainistes. Il y a Gabriel Nadeau-Dubois qui a mentionné qu'il était ouvert, pourquoi pas, à la création d'un parti politique. C'était pas forcément son idée de départ, mais qu'il est ouvert à ça. Jean-Martin Haussan apparemment n'est pas complètement d'accord avec Gabriel Nadeau-Dubois à ce sujet-là. On verra. Il y a déjà peut-être une dissension, mais bon, ça commence. Hein. C'est un peu normal. Mais là, on parle d'un mouvement souverainiste, un autre. Que ce soit un parti politique ou pas, c'est un autre. Un mouvement souverainiste de gauche. D'ailleurs, Gabriel Nadeau-Dubois a été très clair là-dessus. Je l'ai entendu en entrevue à la radio. Il avance pas masqué. Il l'a dit lui-même. Il dit oui, il y a tous les Québécois qui veulent s'exprimer à Faut qu'on se parle vont pouvoir le faire. Mais c'est clair que sous-jacent à ça, les questions sont orientées d'une certaine façon. Discours environnementaliste, économie plutôt au moins social-démocrate, pour pas dire socialisante. L'éducation, bien on va reparler de l'éducation gratuite. Bref, le bon discours de la gauche, puis ils ont le droit de le faire. Moi, la seule question que je me pose, c'est quand t'es souverainiste de gauche, t'as un problème. Sérieux, là. T'as le Parti québécois qui a pratiquement totalement éradiqué les souverainistes plus à droite. Ou même centre-droit, il en reste. Oui, vous allez certainement me dire que il y a un tel quelque part qui est plutôt centre-droit. C'est sûr, il y en a encore. Il y en a encore. Mais ils sont minoritaires, très minoritaires. Vous avez Québec solidaire. Là, il n'y a personne qui va me dire qu'il y a des gens de droite là-dedans. Vous avez Option nationale. Avec Sol Zanetti. Oui, c'est le chef d'Option nationale, celui qui a succédé à ce fameux Jean-Martin Haussan. Et vous avez maintenant Faut qu'on se parle. C'est vrai, c'est pas encore un parti politique, mais on sait jamais ce qui peut se passer. Vous avez déjà trois choix, et peut-être un quatrième, quand vous êtes un souverainiste de gauche. Je peux vous dire, là, je les ai pas vus, mais il y a quelque chose qui est certain. Dans le caucus du Parti libéral, ça a dû pleurer de rire à l'annonce de la formation de Faut qu'on se parle. Ça a dû pleurer de rire. La tarte de la souveraineté, là, c'est à peu près 35 à 40%. Ça, c'est la tarte électorale. Logiquement, cette tarte, ces 35-40%, devrait aller vers le Parti québécois. Or, le Parti québécois a du mal à atteindre les 30%. Aux élections, je ne parle pas nécessairement des sondages. C'était quoi? À un moment donné, ils ont été à 32, mais là, ils sont plus aux alentours de 28-30%. C'est-à-dire, il y a au moins 10% de l'électorat souverainiste qui ne vote pas pour le Parti québécois. Où vont-ils? Vers Québec solidaire? Vers l'Option nationale? Peut-être que là-dedans, il y a des souverainistes de droite qui, finalement, ben, vont voter CAQ. Au moins, je ne voterai pas fédéraliste, mais je ne vais pas voter à gauche. Ou ils s'abstiennent. Mais la tarte souverainiste aurait plutôt tendance à s'amoindrir avec les années. On frisait les 50%, il n'y a pas si longtemps que ça. Mais comme je vous le dis, maintenant, c'est plus du 35-40. Plutôt que de se dire, OK, on va se réunir, on va être inclusif, le mot à la mode que jaillit, mais bon, on va être inclusif. En fait, cette véritable formation arc-en-ciel que voulait René Lévesque, avec, oui, des gens de gauche, évidemment, et puis il y a des chances qu'ils soient majoritaires à l'intérieur du Parti québécois, mais aussi des gens de droite, des gens du centre. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est la souveraineté. Donc, on va s'allier pour faire un pays. Plutôt que de faire ça, ça a commencé avec Bernard Landry, surtout, puis ça s'est pas arrangé par la suite. On épure tout ce qui est trop à droite pour nous, y compris le centre droit. On fait un virage encore plus à gauche qu'on l'était. Ça n'a pas suffi à éviter la création de Québec solidaire, qui va aller rogner dans l'électorat du Parti québécois, bah, surtout à Montréal, soyons francs, pas trop ailleurs. Puis en plus de ça, il y a l'option nationale qui se crée, puis là, c'est... Je sais pas si vous vous rappelez, là, Jean-Martin Haussan, c'était la saveur du mois chez les médias. Hein. Jean-Martin Haussan, oh mon Dieu! Si, c'est quelqu'un de brillant, c'est quelqu'un d'intelligent, c'est quelqu'un... il est intéressant à écouter. Tu sais, je suis pas vraiment d'accord avec Jean-Martin Haussan, mais je reconnais, c'est pas un pied de céleri. Comment dire, l'aura médiatique que Jean-Martin Haussan a eue était absolument pas comparable avec ses résultats électoraux. Il s'est présenté dans la plupart des circonscriptions du Québec. Là, j'ai plus les chiffres en tête. On va aller voir. Il me semble que j'avais une page. Dieu merci, il y a Wikipédia. Hein. Mais il était option nationale. En 2012, avait présenté 120 candidats. 120 sur 125 sièges. C'est quand même pas mal pour un petit parti. En 2014, 116 candidats sur 125 sièges. Son meilleur score à l'option nationale, ça a été 1,89%. Pensez-y, là, c'est même pas 2% des électeurs qui ont voté option nationale, mais... Jean-Martin Haussan, là, était invité, à Tout le monde en parle, était invité à RDI, à LCN. À un moment donné, on le voyait partout. Et puis quand il est parti en Grande-Bretagne, je ne sais pas si vous vous souvenez, là, c'était Jean-Martin Haussan, là. Tu sais, comme si ça avait été un ancien Premier ministre. S'exile en Grande-Bretagne. Allô? 1,89%. 1,89%. À l'élection générale de ça, c'était le meilleur score. Hein. À l'élection générale de septembre 2014, Option nationale a obtenu 30 697 votes, soit 0,73% des suffrages. Je ne suis pas en train de me moquer d'eux, là. Entendons-nous bien là-dessus. Ils ont le droit d'exister, puis si Jean-Martin Haussan a envie de s'amuser avec un parti, une formation politique, grand bien lui fasse. C'est par rapport à sa présence médiatique. Ce même Jean-Martin Haussan, qui avait du mal à atteindre 2% des suffrages aux élections, malgré le fait qu'il était présent dans quasiment toutes les circonscriptions du Québec, je vous le rappelle, forme avec Gabriel Nadeau-Dubois, faut qu'on se parle. Puis là c'est de nouveau la saveur du mois. On l'entend à toutes les radios, à toutes les télévisions, à toutes les tribunes. OK. Mais je sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques années, il y a un mouvement qui s'est créé qui s'appelait le réseau Liberté Québec, avec Joanne Marcotte et Éric Duhaime. C'est un mouvement qui, à mon avis, d'importance, était tout à fait comparable à Faut qu'on se parle. Est-ce qu'ils ont eu un poids médiatique comparable? Non. Vraiment pas. Quand on parlait du réseau Liberté Québec, c'était pour parler des menaces qui pesaient contre un rassemblement du RLQ à Montréal, par exemple. Il y avait des syndiqués qui étaient bien en colère, qui étaient bien en maudit contre si mes souvenirs sont bons, un des livres d'Éric Duhaime. Et puis, ils avaient déposé des tas de cochonneries à ce moment-là. Enfin, bref, on ne parle pas pour les mêmes raisons que de « Faut qu'on se parle ». Évidemment, là, ça fout le trouble dans le camp souverainiste. Ça pourrait peut-être, encore une fois, en faire sourire plusieurs, et pas juste au Parti libéral du Québec. Mais les souverainistes ne voient pas ça d'un bon œil. Puis Jean-Martin Housson, qui reprend sa carte au Parti québécois, après avoir été fondateur et chef d'Option nationale, puis qui va voter pour l'élection du chef du PQ. Elle est où la logique là-dedans? Il me semble qu'il avait quitté le Parti québécois parce qu'il n'était pas content du Parti québécois. Maintenant, il retourne au Parti québécois, mais tout en créant une organisation, un club de réflexion, encore une fois, avec Gabriel Nadeau-Dubois. C'est spécial, hein? C'est spécial. On va voir comment ça va évoluer, c'est sûr. On va certainement en reparler. Surtout qu'avec un personnage comme Gabriel Nadeau-Dubois, oui, je l'ai haï en 2012 pendant le printemps érable qu'on a qualifié de même très pompeusement. Mais c'est pareil, c'est pas quelqu'un qui est. Je l'entends parler, c'est quelqu'un qui est cohérent avec ses idées. Tu sais, je suis pas d'accord, mais c'est pareil, c'est pas un pied de céleri. C'est deux personnes qui, encore une fois, ont le droit de s'exprimer. Je suis pas en train de dire qu'il faut qu'ils la ferment. C'est pas du tout mon point de vue. C'est juste que je trouve bizarre le poids médiatique qu'on accorde à « Faut qu'on se parle ». Puis vous allez me dire « Ouais, mais t'en parles, toi ». Non, je parle du poids médiatique. Je parle de cette incohérence qu'on a de mettre de l'avant des gens qui ne représentent pas le monde. Il y en a un qui ne représente même pas 2% de l'électorat au plus fort d'Option nationale. Puis Gabriel Nadeau-Dubois qui, oui, certes, a été un grand leader étudiant, pendant les événements de 2012, mais qu'est-ce qu'il a fait de sa vie? C'est ça qui est bizarre aussi. Est-ce qu'il a travaillé? Est-ce qu'il a été salarié dans une entreprise? Est-ce qu'il sait comment les gens... Tu sais, il veut parler de la classe moyenne qui est attaquée, surtout la classe moyenne inférieure. Hein. Il veut s'occuper de la classe moyenne inférieure qui, parfois, a tendance à glisser vers la précarité. Oui, il a raison. Figurez-vous, il a raison. Mais à cause de quoi? À cause de la taxe, des taxations, à cause de l'imposition qui est une des plus fortes en Amérique du Nord. C'est à cause de ça. Et la solution, c'est pas de faire payer encore plus les plus riches. Les plus riches contribuent le plus à l'imposition au Québec. C'est pas ça qu'il faut faire. Quand vous voyez qu'il y a des gens qui dépensent 1000 piastres, qui volent 1000 piastres d'essence aux contribuables, je pense qu'il y a des façons d'économiser beaucoup d'argent à l'État, de dégraisser l'État. Tout le monde a fait des efforts, surtout ces dernières années avec la crise là, qui a commencé en 2009-2010. Toutes les entreprises privées, et peut-être que vous en êtes, qui ont dû faire des efforts, qui ont dû faire des compromis, qui ont dû faire des sacrifices pour passer au travers. L'État a continué à grossir. On parle d'austérité, il y a zéro austérité. C'est pas vrai. Depuis la fameuse austérité, prenez les chiffres. Cherchez dans Google, vous allez voir. La taille de l'État, les dépenses de l'État ont continué à progresser. C'est juste peut-être que la croissance des dépenses a été un peu moins forte ces dernières années. C'est possible, je peux le concéder. Mais l'État a continué à dépenser plus que les années précédentes. Arrêtez de parler d'austérité. Et donc, je ne voudrais pas que Gabriel Nadeau-Dubois et Jean-Martin Housson aillent dans cette direction. Parce que là, c'est sûr, j'aurais des choses à dire également. Eh oui! 1h23 minutes de podcast, je pense qu'on bat des records. Bon, c'est pas que je pense, j'en suis sûr. Désolé si ça a été plus long que prévu. Il fallait que je me rattrape du retard de 24 heures dans la publication. Ouais, bullshit. J'espère que vous avez apprécié ce 14e numéro du Radioblog de Québec Presse. Si vous avez des commentaires, des suggestions de sujets ou des remarques, je vous rappelle les adresses pour me contacter. D'abord, le bon vieux courriel radioblog@quebecpresse.com, radioblog@commercialquebecpresse.com. Vous pouvez également me retrouver sur la page Facebook de Québec Presse. Vous pouvez m'envoyer un message privé. J'essaye d'y répondre le plus rapidement possible. Le compte Twitter également pour suivre Québec Presse, @QC Presse. Et si vous aimez le Radioblog de Québec Presse, si vous aimez vraiment le Radioblog de Québec Presse, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur la page dédiée sur iTunes. Donc iTunes, faites une recherche Québec Presse et laissez un commentaire et vos 5 petites étoiles. Je vous remercie par avance. On se laisse comme chaque semaine en musique. Je vous ai parlé en début de podcast, c'est ma saison, quasiment ma saison préférée qui commence. En tout cas, une de mes saisons préférées. Et l'automne, ça me donne souvent le goût d'écouter du jazz. J'aime beaucoup le jazz, mais le jazz très classique, vous allez voir. J'aime pas trop le jazz fusion, à part quelques exceptions, c'est pas vraiment mon genre. J'aime les chanteuses de jazz, c'est avec une voix un peu jazzy, donc un peu rauque. C'est sûr qu'il y a Diana Krall, notre canadienne, notre jazz woman canadienne qu'on voit de temps en temps à Montréal. Puis on aura certainement l'occasion de l'écouter dans un prochain numéro, mais il y a une américaine qui est extraordinaire, que j'aime beaucoup, Melodie Gardot, qui a sorti en 2009 une de mes chansons préférées qui s'appelle « Your Heart is as Black as Night ». Ça, c'est tout un programme. Je vous laisse donc en musique et on se retrouve la semaine prochaine pour un 15e numéro du Radioblog de Québec Presse. Déjà, je vous souhaite donc une bonne semaine. Bye bye!
Your eyes may be whole, but the story I'm told is your heart is as black as night. Your lips may be sweet, such that I can't compete, but your heart is as black as night. I don't know why it came along at such a perfect time, but if I let you hang around, I'm bound to lose my mind. 'Cause your hands may be strong, but the feeling's all wrong. Your heart is as black as night. Such a perfect time, but if I let you hang around, I'm bound to lose my mind. 'Cause your hands may be strong, but the feeling's all wrong. Your heart is as black, your heart is as black. Oh, your heart is as black as